enfants de plus de 5000 adultes interrogés dans les deux Kivu et en Ituri en 2013 jugent négatif l'impact de la CPI sur la paix et la sécurité en RDC. C'est le résultat d'un rapport que viennent de publier depuis la Haye, l'université américaine d'Harvard et le PNUD. Selon ce rapport, l'une des causes est la méconnaissance de cette juridiction internationale. Comment analyser ce rapport? C'est le thème que nous vous proposons ce soir. Pour en parler, je reçois professeur Patrick Vink, professeur à l'université américaine d'Harvard. Il est l'un des auteurs de cette étude. Professeur Vink, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Guy Mouchata, consultant juridique de Trial, une ONG internationale qui lutte contre l'impunité des responsables, complices et instigateurs des crimes les plus graves. Trial collabore à l'action de la CPI. Maître Mouchata, bonsoir.
Bonsoir.
Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est le professeur Jacques Joly, sénateur et cadre du parti politique MLC. Il est professeur de droit constitutionnel. À tous, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Certains Congolais habitant l'Est de la RDC jugent négatif l'impact de la CPI sur la paix et la sécurité. Un rapport que viennent de publier depuis la Haye, l'université américaine d'Harvard et les PNUD intitulé « À la recherche d'une paix durable en RDC » révèle que 28% de plus de 5000 adultes interrogés dans les deux Kivu et en Ituri en 2013 pensent que la juridiction internationale a une influence négative sur la paix en RDC. L'une des causes est la méconnaissance de la CPI. Jeff Ngoy.
Ce rapport est destiné à comprendre les perceptions et attitudes de la population face à la justice, la paix et la sécurité. Il souligne néanmoins que le travail de sensibilisation de la CPI a conduit à une amélioration notable des connaissances des travaux réalisés par la Cour. Les rapporteurs étayent leurs conclusions par le fait qu'en 2008, seuls 28% d'enquêtés avaient entendu parler de la Cour pénale internationale contre 52% en 2013. Ils préconisent cependant un engagement plus local sur le mandat et la réalité de la CPI afin de gérer les attentes. Près de 4 millions de personnes sont décédées lors de la guerre ou à cause d'elle entre 1998 et 2004 en RDC. Et le nombre des responsables impliqués dans les crimes est incommensurable. La contribution de la Cour à la lutte contre l'impunité reste donc à ce jour limitée. Selon les enquêteurs, si le système de justice est globalement perçu négativement, ils sont en revanche près de 90% à vouloir une justice d'après-guerre et 92% à penser qu'il est possible que la justice soit rendue pour ces violences.
Du côté de la CPI, on estime qu'il faut faire la part des choses. Pour Patrick Chiboui, assistant chargé de la sensibilisation à la CPI en RDC, si en Ituri la sensibilisation se porte bien, malheureusement au Nord Kivu, il y a le facteur insécurité qui ne favorise pas le bon déroulement du travail. On l'écoute au micro de Kélin Kouté.
Je crois qu'il faut faire la part de choses. En lisant attentivement le rapport, on voit d'une part l'enquête qui a été portée sur l'impact de la Cour pénale internationale par rapport à la paix et à la justice, mais d'autre part également, le rapport a fait remarquer une évolution remarquable de la connaissance de la Cour pénale internationale dans les Kivu et ainsi qu'en Ituri. En Ituri, nous avons un personnel de l'unité de la sensibilisation qui est basé en Ituri, qui vit à Bunia. Alors que dans les Kivu, nous n'avons pas, pour le moment, un personnel basé dans les Kivu. Donc, c'est le même personnel qui est à Bunia et à Baza Kinshasa, qui fait régulièrement des descentes dans les Kivu. Et il faut se remarquer que les difficultés que nous avons dans les Kivu sont principalement liées aux questions de sécurité, qui empêche notamment que les activités de sensibilisation soient menées plus facilement que par exemple cela fait en Ituri. Donc ce sont des facteurs qu'il faut prendre en compte. Mais par rapport à l'impact, vous allez remarquer d'ailleurs que le rapport relève une grande majorité des personnes interviewées sont restées neutres, mais c'est vrai que les pourcentages font état d'un certain nombre de personnes qui jugeraient cet impact négatif, mais les écarts sont faibles avec ceux qui auraient un avis contraire. La connaissance de la CPI ne peut pas être dissociée de la connaissance de la justice formelle telle qu'elle est. Donc si déjà les Congolais interviewés ont du mal à comprendre le système judiciaire congolais lui-même, il est difficile qu'il puisse avoir la facilité alors de comprendre notre système qui vient en complémentarité que le système de la Cour pénale internationale. C'est un grand défi, mais également, il faut prendre en considération, le rapport le relève, les fortes attentes des populations, notamment dans les Kivu, qui souhaiteraient que les personnes qui auraient commis des crimes graves soient jugées, mais comme le signale le rapport, la compétence de la Cour pénale internationale est limitée. La Cour ne vient pas remplacer le système national. Elle ne pourra pas poursuivre tous les auteurs des crimes qui auraient été commis en RDC.
Professeur Patrick Vink, vous êtes professeur à l'université américaine d'Harvard. Vous êtes également l'un des auteurs de cette étude. Professeur, cette émission est également pédagogique. Pour commencer, quel est l'objectif de cette étude ?
L'objectif de l'étude est vraiment d'amener une base de décision, de l'information qui puisse informer les acteurs qui travaillent au renforcement de la justice, au renforcement de la paix au Congo. Très souvent, on se rend compte qu'il manque un petit peu la perspective de la population elle-même. Quelles sont ses expériences? Quelles sont leurs attentes par rapport à la reconstruction, par rapport au renforcement de la justice? Au final, quelles sont leurs attentes? Qu'est-ce qu'ils veulent voir arriver? Quelles sont leurs priorités? Et donc, c'est un petit peu le but de cette étude, de donner cette perspective, en espérant à ce moment-là informer les différents acteurs, que ce soit gouvernementaux, ONG ou des Nations Unies, qui travaillent sur le terrain.
Alors, en parlant des résultats, professeur, 28% de plus de 5000 adultes interrogés dans les deux Kivu et en Ituri en 2013 pensent que la juridiction interne, la CPI, a une influence négative sur la paix en RDC. Comment vous interprétez ces résultats?
Alors, donc ce qui est important, c'est que cette étude, d'abord, est faite pour être représentative des trois zones dont vous avez parlé. Donc les résultats sont là pour nous donner une représentation scientifiquement valide, si vous voulez, des perceptions de la population dans ces zones. Alors par rapport à la CPI et la justice en général, je pense que le premier résultat important et à mettre en contexte, c'est qu'il y a une forte attente, une forte demande pour qu'il y ait justice pour les crimes qui ont été commis dans l'Est. Ça se traduit par avoir les personnes responsables doivent être punies, doivent être mises en prison. C'est le genre de personnes de réponse que nous recevons. Alors par rapport à la justice en général, il est clair qu'il y a une crise de confiance. Une crise de confiance à tous les niveaux, mais qui est plus forte au sein de ou envers le système national formel de justice, les tribunaux congolais, dans lesquels la population a très peu confiance, et une crise de confiance par rapport aux tribunaux internationaux, mais qui finalement ne sont là que pour juger un nombre très limité de personnes et avoir un effet finalement qui ne peut pas être dissocié du travail de justice nationale qui doit être fait également. Donc je pense que effectivement il y a beaucoup de déceptions, je pense que c'est plutôt une réaction de déception, cette réponse négative par rapport au fait que finalement la situation sur le terrain ne change pas ou n'évolue pas aussi vite que les personnes le souhaiteraient. Comme l'a été dit, il y a en fait la majorité des gens parlent plutôt d'un impact neutre, donc en fait il n'y a eu aucun impact que ce soit sur la paix ou la justice de la part de la Cour, et puis on a aussi un pourcentage qui a une perception beaucoup plus positive. Mais je crois qu'au final, quand on se concentre sur les personnes qui étaient un peu plus négatives, c'est juste une déception par rapport au fait que finalement, le nombre de cas, le nombre de personnes qui pourraient être jugées restera toujours très très limité, et finalement ça renvoie à la responsabilité du système judiciaire national.
Et on venait, professeur, de suivre la réaction de la CPI en RDC, comment vous la comprenez ?
Alors je pense que effectivement les progrès qui ont été faits sont remarquables. Quand on passe d'à peu près un quart des personnes interrogées qui connaissaient ou avaient entendu parler de la CPI en 2008, et aujourd'hui on arrive à 60% en Ituri, par exemple, c'est effectivement tout à fait positif. Et puis il faut se rendre compte qu'il y a des limites à l'accès à l'information auxquelles les personnes ont droit ou ont accès. En raison simplement des difficultés de terrain. On connaît tous les limites d'accès aux réseaux radio, communication, routière et autres. Donc il est certain que l'information ne circule pas aussi bien à l'Est qu'elle ne peut circuler à Kinshasa, par exemple. Donc je pense que ce sont des résultats qui sont tout à fait raisonnables. Maintenant, il est certain qu'il y a eu un manque de communication dans les autres zones qui sont elles aussi concernées par cette justice internationale. Et effectivement, il y a un bureau en Ituri qui est très très important et très utile, mais il serait souhaitable certainement d'avoir des bureaux ailleurs et d'avoir une communication spécifique dans les autres zones concernées.
Et donc, professeur, pour ceux qui n'auraient pas lu le rapport, quand vous parlez, vous dites qu'il s'agit, vous parlez à un certain moment de la justice de façon générale, il faut dire que dans le rapport, vous épinglez aussi la justice congolaise.
Écoutez, il est certain que le but ici, c'est d'être constructif et de voir quelles sont les perceptions de la population par rapport à la justice et quelles sont leurs attentes. Donc il y a une forte demande pour que les personnes soient punies, et en même temps, quand on leur demande s'ils ont confiance dans le tribunal, dans le système national, la réponse, donc en fait c'est une question ouverte, hein, que pensez-vous du système national congolais, les réponses principales qui ressortent finalement, c'est que ça n'existe pas, que c'est corrompu, qu'il faut payer pour avoir la justice, ou que c'est seulement la justice pour les riches, et finalement seulement une quinzaine de pourcentage de la population parle de façon positive en disant que ça fonctionne bien. Donc c'est de façon très générale une vue assez négative de ce système national qui renforce certainement la perception plus générale de la justice et de l'absence de justice pour les crimes qui ont été commis.
Merci professeur, je vous redonne la parole d'ici là. Maître Guy Mouchata, vous êtes consultant juridique de Trial, une ONG internationale qui lutte contre l'impunité des responsables, complices et instigateurs des crimes les plus graves. Trial, vous collaborez à l'action de la CPI. Comment vous analysez ce rapport? Vous venez de suivre le professeur Patrick Vink qui est l'un des auteurs.
Merci beaucoup. Je pense que ce rapport est un instrument important dans la mesure où il peut permettre d'informer les acteurs de terrain à pouvoir améliorer, sinon orienter leurs activités. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut mettre ce rapport dans la perspective générale du travail qui se fait en termes de complémentarité à l'action de la Cour pénale internationale. Dans la mesure où, en épinglant les perspectives des populations locales, on peut effectivement arriver à dresser un certain nombre de recommandations qui puissent aider à l'amélioration du système judiciaire national. Si je mets l'accent donc sur le système judiciaire national, c'est en rapport justement, comme je le disais tantôt, avec la question de la complémentarité. Tout à l'heure, le professeur Vink a parlé du niveau des attentes qui est très élevé de la part de la population. Et si la Cour, l'action de la Cour pénale internationale était bel et bien combinée avec une action des juridictions nationales, certainement cet impact de la Cour serait certainement vu comme étant grandissant au fur et à mesure de l'existence de la Cour. Mais malheureusement, on a d'un côté une Cour qui est, je dirais, assez spécialisée pour poursuivre les auteurs qui ont la plus lourde responsabilité dans la commission des crimes, mais le plus grand nombre, c'est-à-dire ceux qu'on a communément des petits poissons, qui devaient être poursuivis par les juridictions nationales, ne le sont pas. Et dès lors, combiné à d'autres facteurs que je verrai, comme le niveau peut-être d'instruction des personnes qui ont été interrogées, le niveau par rapport auquel eux-mêmes ont été affectés par les crimes ou leur intérêt par rapport à l'action de la Cour, tous ces éléments peuvent faire en sorte que ces taux puissent être assez bas. Mais je pense que, au-delà de ça, l'impact de l'activité de la Cour dans le milieu comme l'Ituri est assez perceptible au point de vue de la population, même si ce n'est pas de façon très générale, mais surtout au niveau des communautés qui sont affectées. Et lorsqu'on interroge, par exemple, les gens qui sont au niveau du Nord Kivu, il est tout à fait normal que ces personnes-là puissent ne pas sentir cet impact, parce qu'à notre avis, il y a eu à un certain moment des occasions manquées où la Cour pouvait justement donner des leçons, je dirais, de façon assez claire aux auteurs des crimes graves. Vous vous souviendrez, à un moment donné, avec les CNDP et les autres des crimes qui étaient commis, on attendait certainement, quand on interroge les populations, on attendait en ce moment une réaction de la part du procureur pour annoncer des enquêtes, mais on n'a pas eu cette réaction. Et les premières enquêtes qui ont suivi concernent justement les FDLR avec l'affaire Barushimana, mais on n'a pas non plus vraiment vu que les enquêtes étaient suffisamment avancées. Dès lors, on peut arriver justement à cette déception dont parlait tantôt le professeur, et que la population perçoive l'action de la Cour comme étant, je dirais, à la limite un peu inefficace. Mais en réalité, cela est dû, je dirais, aux activités qui sont menées sur le terrain et à un certain nombre de facteurs qui sont au niveau de la justice nationale.
Et donc, professeur Maître Mouchata, pour vous, est-ce qu'on peut dire qu'il est quand même étonnant que près de 10 ans après, la perception de la CPI au niveau des populations reste un peu mitigée? Est-ce étonnant?
Non, je ne pense pas que ça soit vraiment étonnant parce qu'il faut mettre ça en parallèle avec l'action qui est menée en matière de sensibilisation, et non seulement en matière de sensibilisation, mais aussi en matière du travail de la Cour elle-même. Je dirais, les populations congolaises sont habituées à la justice nationale. La justice internationale, celle qui est délivrée par la Cour pénale internationale, semble un peu lointaine, dans la mesure où les procès se tiennent à la haie. Les médias ici essayent de relayer, mais Dieu seul sait combien de journaux sont à l'intérieur, combien de personnes ont accès à l'Internet, et ainsi de suite. Donc, de la part de la population, lorsqu'elle ne constate pas, je dirais, que les criminels sont dans des prisons, je pense qu'il est tout à fait normal, si on ne leur explique pas, qu'elles puissent penser que rien ne s'est fait. Et dans ce sens, on ne peut pas être étonné. La Cour, c'est une Cour, je dirais, à la limite, à la pointe de ce qu'on peut avoir en termes de juridiction internationale. C'est une institution qui essaye de rendre justice de manière, je dirais, plus ou moins parfaite, entre guillemets, c'est-à-dire en respectant les standards liés à un procès équitable. Et tout cela prend du temps. Les enquêtes sont décalées par rapport au moment de la commission des faits. Et dans ce sens, cette Cour peut paraître, ces actions peuvent paraître un peu limitées ou peuvent paraître n'est pas avancées à grande vitesse. Et c'est pourquoi, voilà, il est important et tout le monde insiste sur la complémentarité des juridictions nationales, que les juridictions nationales ont la primauté dans la répression des violations graves des droits de l'homme. Et une fois que les juridictions nationales le font et la Cour vient de façon complémentaire, on peut avoir une synergie et d'impact sur terre.
Professeur Jacques Joly, vous êtes sénateur et cadre du parti politique MLC. Vous êtes professeur de droit constitutionnel. Vous venez de suivre professeur Patrick Vink ainsi que maître Mouchata. Vous, comment vous analysez ce rapport?
Mais pour moi, merci beaucoup. Je salue d'abord le professeur Vink et maître Guy. Pour moi, ce n'est pas une nouveauté. Au contraire, c'est une confirmation. Confirmation d'une Cour qui s'est révélée non simplement incompétente, mais tout simplement inefficace. C'est vrai, il y a deux points. On peut parler de la justice nationale. Nous savons, comme a dit le professeur Vink, que ça n'existe pas. C'est une justice qui apparaît comme totalement corrompue, une justice, comme il a dit, totalement inexistante. Donc, il y a un travail de réforme du secteur des sécurités et le pilier justice qui n'est pas, ne fût-ce que abordé. Si on lit la Constitution et les piliers judiciaires ou de justice qui est mis en place, qui devait prévoir, n'est-ce pas, l'éclatement de la justice en trois ordres, on est au degré zéro. Et lorsqu'on voit l'action de juridiction, y compris la Cour suprême, on ne peut pas parler de l'affaire Ewanga, où on a vu de gros bras, n'est-ce pas, menacer les témoins et les autres devant le juge totalement inefficace. Donc il y a tout un chantier qu'il faut mettre en place. Donc la question de la complémentarité soulignée par maître Guy Mouchata se pose parce que le pilier interne n'existait pas ni dans son architecture, ni dans la philosophie. Mais aujourd'hui, je crois que nous avons été appelés pour parler de la justice internationale. Sans avoir pris connaissance de l'ensemble du rapport du professeur Vink et de l'université d'Harvard, dont je me pose la question de l'intérêt, peut-être pour aider qui a commandé cette étude, et surtout de l'échantillonnage. On a pris le Nord Kivu, Sud Kivu et l'Ituri. Je crois que ce n'est pas simplement dans ces trois régions que la perception de la Cour se pose.
Et donc ce n'est pas assez représentatif pour vous?
Bon, même si d'abord la question de l'échantillonnage, mais au-delà de cela, cette justice internationale est remise en cause déjà par l'Union africaine. C'est déjà un problème, cette justice-là. Et les questions qui sont soulevées de la non-connaissance, il ne s'agit pas de la non-connaissance, c'est tout simplement des interrogations sur cette justice, sur son efficacité, sur sa partialité, sur son impartialité, sur sa neutralité. Beaucoup de Congolais, le P de la CPI, ce n'est pas une cour pénale, c'est une cour politique. Donc, l'action de la CPI pose problème après 10 ans sur son efficacité, sur son orientation. Si vous prenez le 8 questions, les courriers à faire en cours, 5 ont été à la demande, n'est-ce pas, de ces pays eux-mêmes. Donc, on voit bien qu'il y a une orientation. Lorsque la Centrafrique demande qu'on poursuive Bemba, mais la Centrafrique n'a qu'à soumettre tous les cas de violation grave des droits de l'homme qui se passent en Centrafrique. Et les traitements de ces affaires, ça fait plus de 7 ans que Jean-Pierre Bemba est là. Et il n'y a pas de solution. Même les Goudjolo et toutes les autres personnes qui sont poursuivies, on sent que l'activité de la CPI ne répond pas au canon d'un droit pénal professionnel. Il y a trop d'amateurisme et très souvent, c'est une justice orientée, politisée, qui s'occupe des questions africaines. Vous pouvez voir toutes ces questions qui sont là. Est-ce que les crimes ne se remettent qu'en Afrique? Nous nous félicitons. Nous nous sommes félicités de l'émergence d'une justice pénale internationale. Mais cette justice pénale internationale, c'est une justice des pays pauvres et fragiles. Voilà la problématique. Donc, je crois que les petits instructionnages qui ont été pris démontrent non pas la méconnaissance, mais les désaveux de cette justice internationale. Le peuple de ce monde ont besoin d'une justice internationale, mais la manière dont Moreno et son successeur, Madame Benfaouda, je me demande même comment on choisit les procureurs. Comment voulez-vous qu'un pays comme la Gambie, où Madame Benfaouda était ministre de la Justice, c'était un des pays où il y a de l'injustice, puisse aller faire de la justice au niveau international? On veut se moquer de qui?
Et donc, professeur, pour vous, tous les éléments sont réunis pour qu'une pareille enquête ne puisse donner que de pareils résultats.
Tout à fait. Tout à fait. Ce n'est pas simplement au Kivu. Si on analyse le problème, prenons le cas FDLR. La personne qui a été arrêtée, c'est pas M. Mouda Chamoura ou autre, on l'a relâché parce qu'il n'y a pas d'éléments de preuve. Et chaque jour, le FDLR viole. Est-ce que c'est par absence de professionnalisme ou tout simplement pour faire comme s'il y a des poursuites? Prenons le cas de la RDC. On connaît que Kunda et sa bande violent depuis des années, mais ils sont tranquilles au Rwanda. Où est cette justice universelle? Alors, on s'attaque aux gens qu'on veut bien attaquer. En Goudjolo, je sais que les crimes qui ont été commis à Ituri sont des crimes graves. Mais au-delà de cela, est-ce qu'on fait des enquêtes sérieuses? Lorsque l'Ouganda saisit la cour, c'est pour le KLRA. Mais les crimes commis par les troupes ougandaises en RDC, quand est-ce qu'on va les juger? Quand est-ce qu'on va les juger? Les actions des troupes rwandaises en RDC, quand est-ce qu'on va les juger? Donc, les Congolais ne sont pas dupes. Et ce qui est dit dans ces rapports témoigne non pas de la méconnaissance par les Congolais de la justice pénale internationale, mais du désaveu de cette orientation ou désorientation de cette justice pénale internationale.
Professeur Patrick Vink, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Belgique.
Jean Migabo Kaléré, chercheur à la faculté de droit de l'université de l'Euvre, Belgique. Je suis partiellement en désaccord avec ce rapport de Harvard University. D'abord, la méthodologie, l'approche participative, l'échantillon est très limité à 2 ou 3 provinces, sous réserve de lire les fonds. Point de vue connaissance de la Cour pénale internationale, les Congolais connaissent bien la Cour pénale internationale, au moins du point de vue information. Par contre, là où je peux être d'accord avec ce rapport, ce sont les résultats de la Cour pénale internationale sur le terrain du point de vue justice et avec un effet sur la paix en République démocratique du Congo.
Réaction, professeur Vink.
Oui, ben je vais peut-être parler en deux mots sur la méthodologie. La méthodologie suit des méthodes tout à fait classiques de sondages d'opinion qui permettent d'avoir des données qui sont représentatives de la population adulte. Donc nous avons choisi au hasard des adultes sur tout l'ensemble des territoires dans les 3, donc dans les 2 provinces de Kivu et dans le district de l'Ituri. Alors, est-ce que l'étude aurait dû être nationale? Est-ce que l'étude aurait dû se concentrer sur d'autres régions? Bien sûr que l'idéal, ce serait d'avoir une couverture plus importante. Il se fait tout de même que c'est dans l'Est que se posent encore aujourd'hui les problèmes les plus importants au niveau sécurité et que c'est la zone sur laquelle les enquêtes doivent avoir lieu et sur laquelle la justice doit travailler en priorité. Donc voilà, les options ont été faites dès le départ, pour des raisons à la fois techniques et financières aussi, de se concentrer sur ces zones-là. Donc nous ne réclamons pas d'être représentatifs de l'ensemble du pays, mais simplement de ces zones-là. Et dans ces zones-là, nous sommes très confiants de la qualité et du travail qui a été fait. Alors, l'impression que la Cour est connue, que la Cour n'est pas connue, ici nous avons enfin une base solide, scientifiquement valide, qui nous montre ce que les gens en connaissent. Il faut savoir quand même que nous parlons de zones dans lesquelles les gens peuvent avoir très très peu d'accès à l'information. Beaucoup dépendent de leur famille ou de leurs amis comme étant leur principale source d'information. C'est souvent le cas des femmes, par exemple. Donc c'est important qu'on se rende compte qu'on ne parle pas ici que des personnes qui vivent en milieu urbain, qui sont éduquées, mais on parle aussi de femmes qui ont peu d'éducation, peu d'accès à la radio, par exemple, et c'est important d'avoir leurs impressions aussi par rapport à tout ceci.
Professeur...
Alors, je partage certaines des discussions qui ont eu lieu sur la perception de la justice. Je pense que ce qui est certain, c'est que ce que les gens attendent, c'est une forme de punition, une forme de reconnaissance, éventuellement une forme de compensation. Et évidemment, la justice internationale prend trop de temps. C'est un problème qui est connu et qui existe, mais qui est principalement le résultat d'un travail extrêmement rigoureux et dans lequel je ne pense pas qu'il soit évident qu'il y ait des biais sur de base politique. Finalement, quand la RDC ou un autre pays fait un réfère une situation, on ne réfère pas des cas individuels, on réfère une situation et c'est ensuite au procureur à décider qui sera enquêté et à faire son travail d'enquête.
Professeur, vous parlez d'un accès faible à l'information. Est-ce qu'on peut également parler d'une faible appropriation des médias en ce qui concerne la CPI?
Alors, je pense qu'évidemment, le travail peut toujours être amélioré, mais simplement quand on demande aux gens de juger eux-mêmes la façon dont ils se sentent informés à propos des nouvelles nationales, par exemple, eh bien, on a seulement à peu près 25% de la population qui se sent bien informée des nouvelles nationales. Quand on parle des nouvelles provinciales de Norneux, c'est 26%. Quand on parle des personnes qui se sentent informées du travail de la MONUSCO, 15% des personnes disent être bien ou très bien informées du travail de la MONUSCO. Quand on parle de la justice, il se parle de la Cour pénale internationale, on est à 10%. Donc il y a certainement un problème d'information, les gens se sentent peu informés et sont peu informés. Et quand on leur demande encore une fois quelles sont vos principales sources d'information, eh bien la radio est la source principale, hein, pour 63% des personnes interrogées, la radio est la source principale d'information, mais on a un tiers des personnes, c'est-à-dire 32% des personnes qui nous disent ne se baser que sur leur famille et leurs amis comme étant comme source d'information. Donc il y a énormément de gens qui n'ont pas accès à une information formelle. Donc le travail avec les médias est important, mais c'est aussi important d'essayer de mieux connecter les personnes.
Professeur, dans le rapport plus que la justice, les personnes interrogées pensent que c'est d'abord le dialogue entre les groupes ethniques qui, selon la population, pourra ramener une paix durable en RDC. Et donc, pour une grande partie, la solution à la véritable paix reste congolaise.
Je pense que les Congolais le disent eux-mêmes, mais je pense que personne de sérieux ne pense que la paix peut venir de l'extérieur. Il est certain que la paix doit venir des Congolais eux-mêmes, que ça fait partie d'un processus national de consolidation et de reconstruction de la paix qui doit inclure des dialogues intercommunautaires, interethniques, mais aussi une forte demande de la part de la population pour établir la vérité sur ce qui a été fait, par qui, comment, dans quelles conditions et pourquoi finalement les crimes ont été commis. Donc je dirais deux processus importants, un processus de justice et un processus national de dialogue, de communication pour qu'on aille de l'avant.
Professeur Djoli, Maître Guy Mouchata, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient du Nord Kivu.
Gérard Kambale et Kazimboufou, j'appelle de Beni à la province du Nord Kivu. La CPI restera sans impact et ne pourra en aucun cas dissuader les criminels congolais car... C'est de rien. Les transférer à la CPI, c'est leur faire une réservation dans un hôtel 4 étoiles où ils auront à dormir et manger gratuitement. Qui peut ne pas envier ces conditions? À moins qu'on délocalise cette cour en Afrique et soumettre tous ces présumés aux conditions africaines.
Maître Moussa, ta réaction?
Merci beaucoup. Mais je pense que Gérard oublie que les détenus de la CPI ne circulent pas. Quand on met quelqu'un, d'abord pour le condamner, parce que la plupart qui sont là sont des présumés innocents, les procédures étant en cours, donc ce ne sont pas des personnes qui sont condamnées, mais pour les personnes qui sont condamnées, ces personnes sont gardées en détention dans des prisons qui présentent les caractéristiques où ils peuvent vraiment effectivement, où elles pourront effectivement, comment je dis, purger leur peine. Et dans ce sens, la sanction de la privation de la liberté n'est pas une sanction qui dit que la personne ne doit pas manger ou ne doit pas dormir. Cette personne a quand même des droits fondamentaux. Et je pense que pour tous les juristes, ils savent, la prison a aussi un rôle, je dirais, de réinsertion sociale pour permettre à la personne de pouvoir s'amender. Et pour les personnes qui sont condamnées à des peines à temps, une fois qu'ils ont terminé la prison, ils doivent être réinsérés socialement. Donc, il y a des règles minima qui concernent, qui régissent la détention, et dans ce sens, ces règles doivent être respectées. L'auditeur ne doit pas confondre la situation anormale de nos prisons que nous vivons ici, où les prisonniers ne savent pas dormir, où les prisonniers ne mangent pas, où les prisonniers sont entassés comme des animaux dans des cachots. Ça, ce n'est pas une situation qui est louable, qui répond aux règles minimales qui régissent, n'est-ce pas, cette question. Il y a des standards à respecter sur la détention, sur le régime pénitentiaire. Et je ne pense pas que la Cour, qui est une institution internationale, qui montre en fait la voie aux juridictions nationales en ce qui concerne le respect des standards internationaux en matière de justice, puisse se permettre de traiter les personnes détenues du reste présumées innocentes de la manière, je dirais, comme ça s'est fait ici chez nous. Donc l'auditeur a intérêt à comprendre que même le détenu ont des droits et même les condamnés ont des droits qu'il faut respecter. Et c'est là vraiment le sens de la justice. Et dans ce sens, nous devons lancer un vibrant appel pour que ce qui se passe dans nos prisons et dans nos cachots doit nécessairement être amélioré. C'est ici aussi l'occasion de déplorer justement que ces mauvaises conditions ne favorisent pas la mise en place ou la mise en œuvre effective de la complémentarité. Je m'explique. La plupart des condamnés qui l'ont été par nos juridictions militaires congolaises à ce jour pour des crimes graves, des crimes de même nature que ceux que poursuit la CPI, donc les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, et j'en passe, se sont évadés. Donc vous voyez que ça, ce n'est pas une situation qui est favorable donc à l'émergence d'une justice réelle en faveur des victimes.
Maître Mouchata, au cours des 10 dernières années, de nombreuses initiatives émanant d'ONG, d'État, de l'Union européenne ont été initiées pour tenter de réformer le système judiciaire congolais. Peut-on parler d'un échec parce que les progrès apparaissent visiblement très minimes?
Non, je ne serais pas d'avis qu'il faut parler d'un échec, mais je pense que le secteur de la justice, à mon avis, a manqué suffisamment de coordination. Et je dirais, les priorités parfois ne sont pas très bien définies. On a l'impression que les actions sont menées de façon un peu éparpillée et ne peuvent pas donner un impact global suffisant. Mais néanmoins, il y a quelques éléments qui sont positifs. Nous savons par exemple le recrutement des magistrats qui a eu lieu il y a quelques années. C'est un élément important parce qu'il faut doter les systèmes judiciaires des ressources humaines. Quant à la qualité de ces ressources humaines, je pense qu'il y a nécessité de continuer à travailler dessus sur la formation des magistrats. On parlait tantôt de perception de la population par rapport à la corruption. Je pense que c'est un problème majeur qu'il faut redresser parce que quelle que soit la qualité de ressources humaines qu'on peut avoir ou des moyens qu'on peut avoir, si le secteur de la justice est frappé par ces fléaux de la corruption, je pense qu'on puisse y attendre des résultats qui soit satisfaisant et qui donne envie à la population de venir et d'accéder à la justice.
Professeur Jacques Joly, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de la province orientale.
Crispin Aïbou, de Dungouba Mokanti, province orientale. Bien que ce rapport soit mitigé sur la CPI, du moins, c'est tellement nécessaire pour pallier à l'absence de justice impartiale et non instrumentalisée. C'est la seule assurance contre l'abus du pouvoir et des forces. Assurance à notre faveur, les dirigés surtout en Afrique, où la plupart des détenteurs du pouvoir et les forces armées se croient au-dessus des lois étatiques, peuvent manier les constitutions et violer les droits de l'homme à leur guise.
Sur la CPI, serait-elle un mal nécessaire?
Non, la CPI, dans son acception, dans les attentes de ce qui était le monde de l'après-guerre froide, apparaissait comme l'aboutissement finalement de cette qu'on peut appeler la morale internationale, la justice internationale. Et en termes d'objectifs, tout le monde était d'accord pour que finalement émerge une vraie justice pénale internationale et non pas des justices ponctuelles telles que Nuremberg et autres qui furent, n'est-ce pas, des justices des vainqueurs sur les vaincus. Donc, la Cour pénale internationale, lorsqu'on voit sa vocation de combattre, n'est-ce pas, cette criminalité internationale sous diverses formes, ne pouvait être que saluée. Mais le problème, c'est que dans la mise en œuvre de ces projets internationaux, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ce que témoigne, n'est-ce pas, cette étude. C'est que d'abord, les grands pays, les pays qui sont membres du Conseil de sécurité, qui devaient donner l'exemple, n'ont jamais ratifié les traités de Rome. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la France même avec de réserves. Donc à partir de ce moment-là, le grand de ce monde n'ayant pas ratifié ces traités, mais agissant en coulisses pour régler le compte à ce qu'ils veulent. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a qu'en Afrique. C'est vrai que l'Afrique, c'est le continent où il y a des violations massives des droits de l'homme. Mais lorsque vous ouvrez votre télévision le soir, balayez le monde, allez au Moyen-Orient, allez en Europe de l'Est, vous verrez des crimes qui se commettent. Mais la Cour est incapable d'actionner même une action minime, même une information. Mais lorsqu'on va à la Cour, ce sont les États africains, les États fragiles, qui utilisent, instrumentalisent la Cour pour que les leaders se règlent des comptes. Regardez la situation à Côte d'Ivoire. Tantôt on livre M. Gbagbo, on refuse de livrer Mme Gbagbo, on livre Blé Goudé. Mais c'est ça, justement, l'instrumentalisation de la Cour. Et voilà pourquoi, moi j'aurais voulu que le professeur vainque instrumentaliser une étude sur la Cour elle-même, son fonctionnement, ses méthodes de travail. C'est à partir du travail de la Cour que la perception des citoyens du monde et congolais changera. Mais tant qu'on sera là pour régler le compte, je ne dis pas que le président soudanais c'est un bon monsieur, mais on voit que la balkanisation de la Soudan faisait partie d'un agenda politique et la fragilisation du président soudanais, ça fait partie d'un agenda politique. Comment on peut m'expliquer que dans une même affaire centrafricaine, Bemba soit arrêté et que M. Patassé, que Dieu ait son âme, puisse être libre dans une même affaire pénale? Ce sont des choses incompréhensibles, non simplement pour les commis des mortels, mais pour les juristes moyens.
Professeur, on a parlé longuement de la complémentarité qui fait défaut entre la justice congolaise et la justice internationale, des problèmes dans la réforme même de la justice. Vous êtes parlementaire, où en sommes-nous à ce jour?
Le problème ne se pose pas tellement au niveau du texte. C'est vrai que les textes sur la mise en œuvre des statuts de Rome se posent, mais notre droit en lui-même contient les éléments qui peuvent permettre cette complémentarité. Mais c'est une complémentarité négative. Vous vous souvenez de l'affaire Babala? Vous voyez comment la justice nationale est instrumentalisée pour régler des comptes politiques à des adversaires. Dans toutes les affaires qui se passent sur le Congo, c'est une justice d'expédient ou de consommation. Mais la vraie complémentarité, c'est lorsque la justice congolaise se serait réarmée de valeur d'une vraie justice, à partir de ce moment-là, la Cour ne se fera pas piéger ou ne tombera pas dans le piège, parce que maintenant, on l'a vu, on sait que c'est on dirait même des arrangements. C'est ça le problème. Donc la Cour s'arrange. Et que ce soit pour la situation de la RDC, Les vrais problèmes qui se posent au Kivu, les vrais auteurs de crimes ne sont pas poursuivis.
Merci, professeur. Professeur Patrick Vin, qui nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Très brièvement, professeur, quelles sont les recommandations après les résultats qu'a donné cette enquête? Quelles sont les principales recommandations?
Oui, alors je pense que c'est, encore une fois, certaines choses ont déjà été mentionnées et elles sont importantes à répéter maintenant. C'est qu'il faut un système judiciaire qui soit indépendant, dont l'indépendance est garantie. Ça, c'est une priorité. Alors il y a eu énormément de travail dans la construction d'infrastructures, effectivement, le recrutement et même le déploiement de personnel judiciaire, mais il reste des problèmes importants par rapport au paiement de ce personnel, par rapport à leur équipement, par rapport au fonctionnement des institutions judiciaires au niveau local. Et finalement, quand on demande à la population qu'est-ce qu'il doit être fait en priorité pour améliorer la justice, eh bien la réponse qui vient en premier, c'est lutter contre la corruption. Et donc il faut vraiment embrasser ce message-là et travailler de façon importante à lutter contre la corruption. Et ça veut dire former, payer les juges, payer le personnel judiciaire pour qu'on puisse arriver à une justice qui ne doive pas finalement vivre aux dépens des victimes et essayer d'être payé sur leur jugement, mais qui peut fonctionner de façon indépendante et juste. Donc ça, c'est un travail important. Au niveau de la CPI, je pense que la CPI fait son travail. Je pense que il y a des difficultés, des défis pour une cour internationale, puisque la CPI n'a pas sa propre police. Elle dépend des pays pour effectivement qu'on transfère les personnes qui sont accusées de crimes. Et donc il y a une importante dépendance au niveau national, mais il n'empêche qu'elle fait son travail d'enquête, son travail d'investigation de façon tout à fait indépendante et, je pense, neutre et impartiale. Donc je pense que là il y a un travail à faire, que les gouvernements eux-mêmes sont responsables d'éviter cette instrumentalisation de la Cour, et là la société civile doit aussi jouer son rôle pour qu'on arrête les personnes qui sont demandées. La CPI elle-même doit continuer son travail d'engagement avec la population, d'explication de son travail, de son mandat et de ses limites, puisque encore une fois, une cour internationale n'arrivera jamais à juger une centaine, un millier de personnes. On aura toujours des cas très très limités, et donc ça reste au niveau national de jouer un rôle important dans le jugement des personnes responsables. Et donc il y a un travail d'engagement de la cour qui doit se faire envers la population elle-même, mais aussi renforcer ce travail avec les institutions judiciaires nationales.
Merci professeur. Il nous reste moins de 2 minutes. Maître Mouchata, en guise de conclusion, pour vous, quelles pourraient être les recommandations après une telle étude?
Ben, je pense que pour compléter les professeurs, il faut lutter contre la corruption, non seulement en payant les salaires, mais aussi en activant les chambres disciplinaires. Il faut savoir sanctionner les magistrats et les juges qui sont défaillants ou qui font des délits de justice, se laissent corrompre. Ça, c'est très très important. Et je pense que ce que nous disons tout le temps, c'est que la mise en œuvre de la complémentarité par une réforme réelle du secteur de la justice est un élément clé pour l'accès des victimes de violations graves, n'est-ce pas, à leurs droits, à la justice. Parce que leurs attentes sont telles que sans cette justice, une reconstruction nationale réelle n'est pas possible.
Merci. Merci, Maître Mouchata. Professeur Joly, conclusion.
En ce qui concerne la justice nationale, nous remarquons simplement qu'il n'y a aucune volonté politique de faire émerger une justice indépendante. Un pays qui donne moins de 2% à sa justice, eh bien, c'est un pays qui a érigé l'injustice en système de gouvernement. En ce qui concerne la justice internationale, je crois que le professeur Vinck doit orienter une étude sur l'efficacité de la Cour, sur ses méthodes, sur le choix de ses victimes et de ses proies.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à Martin Sebujangwe qui a supervisé cette émission, mais à Guy Maté, Kéline Kouté, Mimi Kindou qui m'ont aidé à préparer et à présenter cette émission. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de votre attention. Présentation et coordination, Alain Rung-Mouchinge. Bonne suite des programmes sur la Radio de la Paix. Au revoir.